La science, CQFD, Natacha Triou.
Elles ont le vent en poupe, les médecines non conventionnelles. Il y a les effets bénéfiques et les dérives. Alors doit-on mieux encadrer les médecines alternatives ? Les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique, médecine douce ou parallèle ou alternative. Selon différents rapports, les Français et Françaises sont de plus en plus attirés par ces pratiques. Phytothérapie, aromathérapie, sophrologie, acupuncture, homéopathie. Les médecines alternatives sont-elles efficaces et font-elles plus de mal que de bien? On fait le point sur leur régulation. Médecines alternatives, mieux vaut prévenir que guérir. Bruno Falissard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de santé publique à l'université Paris-Saclay et vous vous occupez de la commission sur les soins complémentaires à l'Académie nationale de médecine en duplex de France Bleu Pays d'Auvergne. Bonjour Romy Sauvert.
Bonjour.
Vous êtes sociologue des sciences et des croyances à l'université Clermont-Auvergne et au CNRS. Et nous sommes en ligne également avec Vincent Renard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste, professeur de médecine générale et directeur du département de médecine générale de la faculté Paris-Est Créteil. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture. Vous pouvez aussi suivre cette émission sur Twitter, sur notre fil @sciencesCQFD. Alors jusqu'à 17h, nous parlerons donc des médecines alternatives et complémentaires, comment les définir, comment les évaluer. On commence avec un bel exemple de thérapie pseudo-scientifique, la médecine quantique.
Qu'est-ce que c'est que les thérapies quantiques? Elles sont issues de la physique quantique. Quantique vient de quantum, au pluriel quanta, ça vient du latin, qui veut dire une unité infinitésimale d'énergie. On est dans la médecine vibratoire, on est dans l'électromagnétique, on est dans l'impulsion, on est dans la médecine de l'information. Ce sont des médecines sans médicaments, mais tout le monde connaît les guérisseurs, les magnétiseurs, on ne sait pas comment l'expliquer, mais ça fonctionne. Et maintenant, les Russes, les Américains, mais aussi un peu les Français, ont travaillé à mettre au point des appareils qui peuvent mesurer la fréquence de votre foie, la fréquence de votre estomac, la fréquence d'un organe sain et d'un organe qui commence à ne plus être sain. Et on peut corriger, grâce à des informations électromagnétiques, la fréquence de nos organes.
C'est un exemple assez caricatural, mais une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Bruno Falissard.
Ben, la mécanique quantique, ça attise un peu la pensée magique. Et donc, y a plein de mots qui sont fantastiques, qui font imaginer plein de choses. Et comme il y a plein de choses qu'on ne comprend pas en médecine, et ben on assemble les choses qu'on ne comprend pas et puis on essaie comme ça de penser qu'on va tout comprendre. Alors néanmoins, il faut quand même se souvenir que les scientifiques ne nous aident pas toujours. Il y a un prix Nobel de physique qui pense que la conscience est une propriété quantique émergente des microtubules dans le cerveau. Et donc vous comprendrez qu'après, il y a des soignants qui se disent bah, « si un prix Nobel il dit ça, alors nous on a le droit aussi de dire des choses un petit peu bizarres ».
Romy Sauvert.
Alors bien sûr, cette archive est vraiment fantastique pour la sociologue des sciences que je suis et des croyances. L'idée de thérapie quantique, vous avez entendu immédiatement, elle tire le trait vers la physique quantique. Peu de personnes ne connaissent vraiment dans les détails ce qu'est cette discipline. Et même quand on est physicien, on n'est pas versé dans cette physique quantique qui est difficile d'accès. Et l'idée, elle raccroche tout de suite la physique quantique avec les énergies. Et là, on tombe dans le New Age. Dans le New Age, c'est une vague de mouvements, de croyances qui vous invite à transformer votre vie pour un meilleur, hein, bien sûr, grâce à la maîtrise des énergies. Donc là, voilà, la quantique va maîtriser vos énergies. Et on connaît déjà, selon cette archive, un exemple concret, le magnétiseur, qui est connu de tous, ou le rebouteux, qui, on ne sait pas comment, mais fait des miracles.
Vincent Renard, votre réaction, vous aussi, à ce qu'on vient d'entendre?
Eh bien, moi, ce que je note avec un certain degré d'amusement, mais aussi parfois un certain degré de consternation, c'est que on va tout de suite là vers des appareils qui seraient à même de modifier les vibrations. Et le dénominateur commun dans ce genre de pratique, c'est que ce sont des appareils Donc, il est censé résoudre des problèmes dont, évidemment, le mécanisme ne repose sur aucun phénomène connu, mais le seul phénomène commun, c'est que ça se vend très cher et que ça permet un commerce très lucratif pour ceux qui qui veulent proposer ce genre de thérapie aux patients qui sont en recherche de solutions qu'ils n'ont pas trouvées ailleurs.
Alors, des patients en recherche de solutions qu'ils n'ont pas trouvées ailleurs. Nous, ce qui nous a donné envie de faire cette émission, c'est le scandale sur Doctolib récemment, le 19 août. Des internautes donnent l'alerte, puis le collectif L'Extracteur, un collectif qui vise à alerter sur des dérives de ce type, dénonce la présence sur cette plateforme de naturopathes qui préconisent des attouchements sexuels pour faire baisser la fièvre d'enfant. Alors ça aussi, Bruno Falissard, c'est un bel exemple de dérive sectaire liée aux médecines alternatives.
Bon, là, c'est l'exemple désastreux, par essence, qui se passe de tout commentaire. Alors, ce qui est compliqué dans ce domaine, c'est qu'il y a d'un côté des gens honnêtes qui essaient de s'occuper de patients qui ont du mal à trouver une guérison par la médecine conventionnelle occidentale, et donc qui sont des gens respectables. Et puis, de l'autre côté, vous avez des escrocs qui font n'importe quoi, et voire même des choses qui sont complètement de l'ordre de la cour d'assises. Et aujourd'hui, les patients sont perdus entre les deux. Et il faut être honnête que l'État n'aide pas là-dedans, puisque il n'y a aucune indication qui est donnée aux citoyens pour savoir vers où se diriger.
Vincent Renard ?
Ah oui, je suis complètement d'accord avec Bruno Falissard. Ça manque beaucoup de repères pour les patients. Et on vit une époque justement où vous avez un certain nombre de diplômes de différentes natures qui sont ouverts. Vous avez une floraison de plaques diverses et variées dans lesquelles le grand public a évidemment et beaucoup de mal à se retrouver. Et donc, du coup, qui vient résonner avec justement un certain nombre d'idées, de croyances, de représentations. Et c'est bien une période un peu confuse dans laquelle on est, dans laquelle l'offre se multiplie, se diversifie, sans que le grand public n'ait de repères pour pouvoir savoir qu'est-ce qui ressort de quoi, et notamment, si on parle de la médecine, qu'est-ce qui ressort de la médecine et qu'est-ce qui n'en ressort pas.
Justement, Doctolib a suspendu 17 praticiens, a dit vouloir renforcer le contrôle et la modération des profils d'activités légales non réglementées. Bruno Falissard, comment c'est possible ça d'avoir un tel mélange sur une plateforme aussi utilisée ?
D'abord, Doctolib, c'est une entreprise privée, donc elle fait son job. Et puis, c'est après aux utilisateurs, et puis en dernier ressort à l'État, de dire qu'on n'est pas content avec la façon dont ça se passe. Après, on en revient toujours au même. Il y a des pays où on essaie d'organiser l'offre de soins non conventionnels ou complémentaires avec un minimum de pragmatisme, en sachant que c'est compliqué, mais qu'on fait le minimum pour que les patients, au moins, ne soient pas perdus. Et en France, ça ne se fait pas. Et donc, comme ça ne se fait pas, c'est le Far West. Donc, on peut trouver tout et n'importe quoi, en particulier des gens qui sont des escrocs. Et là, on est tombé sur cet exemple. J'ai envie de dire, à toute chose, malheur est bon. Du coup, on en parle. Et puis, espérons que, à force d'en parler, des choses soient faites pour avancer dans ce domaine.
Alors là, je cite des caricatures des ambulances, mais Romy Sauvert, on dénombre une grande diversité de médecines alternatives. Au total, l'Organisation mondiale de la santé en a dénombré plus de 400. On ne peut pas toutes les mettre sur le même plan, mais de quoi parle-t-on quand on parle de médecines alternatives ou de médecines complémentaires ?
C'est juste, vous avez pointé là un des plus grands problèmes, même dans la littérature scientifique. Ils vont parler de médecine complémentaire alternative et puis ils vont mettre dans leur analyse des choses très variées comme l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, la relaxation. Et puis d'autres moins habituels qui vont jusqu'à la naturopathie, la diététique ou l'acupuncture, l'ostéopathie. Et c'est pas toujours comparable parce que autant des travaux scientifiques montrent que l'acupuncture ou la médecine traditionnelle chinoise peut avoir des bénéfices sur les symptômes des patients, notamment de la Covid, que pour les autres types, même homéopathie, il n'y a pas de preuve scientifique. Donc, le résumé de cette définition la plus simple, ce serait la médecine complémentaire vient en complément, comme son nom l'indique, de la médecine conventionnelle, alors que la médecine alternative est utilisée en remplacement de la médecine conventionnelle. Et c'est cette deuxième usage qui peut être dommageable pour les patients qui vont s'éloigner de la médecine conventionnelle alors qu'ils en ont besoin.
Bruno Felizard.
Oui, alors effectivement, d'abord, il faut bien nommer les choses, c'est indispensable. À l'Académie de médecine, on considère qu'il n'y a qu'une seule médecine, c'est celle qui est enseignée dans les facultés de médecine, c'est pour ça qu'on dit soins complémentaires. Alors après, le vocable qu'il y a plus dans la littérature internationale, c'est « non-pharmacological intervention », c'est-à-dire c'est tout ce qui n'est pas un médicament, un dispositif médical ou une intervention chirurgicale. Et donc ça va inclure par exemple les psychothérapies. Est-ce qu'une psychothérapie est un soin complémentaire? Alors on peut discuter, mais en fait, on parlera de l'évaluation tout à l'heure, elle va poser exactement les mêmes problèmes d'évaluation et de valeurs scientifiques.
Vincent Renard, pour compléter sur ces définitions des médecines alternatives et complémentaires.
Oui, c'est la difficulté naît effectivement de cette problématique-là. Je suis pas forcément entièrement d'accord avec ce qui a été dit là. D'une part, justement, il y a un certain nombre de soins alternatifs qui, justement, pour ne pas s'attirer les foudres des autorités de tutelle ou de la médecine, s'intitulent comme complémentaires à la médecine conventionnelle, mais pour autant revendiquent une activité propre et pourraient s'en passer, mais habillent un petit peu l'affaire avec cette notion de complémentaire. Et il y a beaucoup de faux nez ou de nez masqués, justement pour se défendre de vouloir remplacer la médecine conventionnelle. Donc du coup, cette séparation entre complémentaire ou de remplacement, à mon sens, n'est pas très lisible pour le grand public. Et puis pour reprendre ce que disait Bruno Felizard sur les interventions non pharmacologiques, il y a un certain nombre de données sur en soins premiers sur la médecine générale qui montrent bien que l'effet médecin et je dirais l'effet thérapeute, parce que ça ne se résume pas à la médecine, est indissociable de l'effet thérapeutique des techniques ou des médicaments qu'on va prescrire. Donc c'est pour ça que la césure entre techniques, médicaments, chirurgie et interventions non pharmacologiques qui pourrait regrouper l'ensemble des médecines alternatives ne me paraît pas pertinente non plus. Donc c'est un domaine dans lequel je prétends pas avoir de solution, mais en tout cas qui doit être examiné probablement au cas par cas.
Oui, en tout cas, on ne peut pas considérer ces soins comme un tout homogène. Un mot à présent sur leur popularité. En France, selon un rapport de l'Ordre national des médecins de 2015, 40% des Français auraient recours aux médecines alternatives. En janvier 2019, selon un sondage Odoxa, les Français sont convaincus des bienfaits des médecines alternatives à 68% et de l'homéopathie à 72%. Alors c'est un sondage, bien sûr, pas une étude épidémiologique, mais Romy Sauvert, comment s'explique l'engouement des Français pour les médecines douces?
Ouais, c'est une question difficile, disons qu'on peut parler de parcours qui mène vers ces médecines douces plutôt que de répondre plus directement à la question. Au final, on va avoir des personnes qui ont un problème à régler. Ils vont en premier lieu, comme le montrent les études, aller d'abord chez leur médecin traitant. Ensuite, si le médecin traitant répond à leur problème, eh bien, ils peuvent s'arrêter là. Et s'ils n'y arrivent pas, alors ils vont aller voir d'autres possibilités. C'est là que le fait d'avoir un florilège de propositions pour pouvoir vous guérir de tous les maux, permet aux personnes de tester ce magnétisme, cette sophrologie, etc. Et au final, si en explorant ces médecines alternatives, ils ont des bénéfices sur leurs symptômes, sur leurs ressentis, eh bien ils vont continuer dans l'usage de ces médecines alternatives. Certains vont continuer à utiliser les deux, médecine conventionnelle, médecine alternative, et d'autres vont considérer que la médecine conventionnelle est nocive, leur apporte moins de bénéfices que le côté naturel d'une médecine alternative, et là, ils peuvent s'éloigner de plus en plus de ces soins et risquer un retard de soins, par exemple.
Oui, ce que vous dites naturel, c'est souvent l'argument du naturel qui pèse dans ces décisions.
En tout cas, c'est un argument qui est récurrent et qui peut même amener vers l'antivaccinisme. Le vaccin n'est pas très naturel. En revanche, aller vers des médecines alternatives, peut-être essayer d'ingérer de la Javel, peut vous donner le sentiment que c'est plus naturel. Ou alors la phytothérapie, je vais me soigner avec les plantes et ce sera beaucoup mieux ils percevront un meilleur bénéfice que la nocivité de l'industrie pharmaceutique.
Alors, on parlait de la défiance au vaccin vendredi dernier durant notre émission sur l'origine de ce mouvement. On a vu que le recours aux médecines alternatives était déjà présent au 19e siècle. On peut dire aussi que d'une certaine façon, le 21e siècle booste, entre guillemets, la popularité des médecines douces.
En tout cas, on
il y a plusieurs épisodes qui ont...
On a un engouement autour de ces médecines alternatives. Et à la fois, les Français ont une très bonne image. 86% des Français ont une très bonne image des médecines douces, mais on a aussi deux tiers des professionnels qui les recommandent à leurs patients.
Bruno Falissa, sur ces patients qui ont recours à ces pratiques.
Alors d'abord, vous avez dit médecine douce. Moi, je suis un médecin doux.
Oui, alors c'est vrai que sur les sur la terminologie...
Je m'occupe d'enfants, je suis doux avec mes patients et je revendique d'être un médecin doux. Alors plus sérieusement, moi je crois qu'il y a un mot-clé là qui est spiritualité. Et d'ailleurs, on parlait de nature, mais en fait, on va chercher la nature comme élément d'une spiritualité aujourd'hui. Et c'est vrai que les succès de la médecine à partir du 19e siècle sont venus avec une disparition de la spiritualité dans la pratique médicale. Et pour certains patients, c'est un problème. C'est un problème parce que quand on est malade, tout d'un coup, on se rend compte qu'on va mourir, vraiment. Alors, on le sait tous, mais on l'oublie régulièrement. Et puis, quand on est malade, c'est en face de nous. Et puis, personne n'a de réponse par rapport à cette interrogation profonde. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et les médecins n'en ont aucune, bien entendu. Et donc, les patients, ils se disent, je vais peut-être aller voir quelqu'un qui va me parler différemment. Son discours va résonner avec quelque chose qui est en moi et qui ne relève pas des organes, de leur fonctionnement, etc. Et je pense que ça doit nous faire réfléchir, nous, médecins de la médecine occidentale. Vous voyez, par exemple, croire en Dieu, ça protège du suicide et des addictions. C'est une réalité scientifique. Je suis athée, je donne mes conflits d'intérêts, c'est pas du tout, je fais pas de la réclame. Mais vous voyez, c'est un sujet grave, profond, qui est un peu mis de côté, ça fait pas très sérieux. Et je pense que là, les patients nous rappellent à l'ordre.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux.
16h18 sur France Culture, nous parlons tout au long de cette heure de médecines alternatives et complémentaires avec Bruno Falissa, Romy Sauver et Vincent Renard. Vincent Renard, parlons à présent de leur encadrement, des diplômes et des statuts. Quelle est la réglementation sur la pratique des médecines complémentaires en France?
Là aussi, c'est un vaste débat parce que nous sommes... Face à, de ce point de vue-là, on parlait tout à l'heure de confusion et de dérégulation, et bien on est devant une situation historique un peu compliquée, puisque vous avez en France pour la médecine, vous avez le diplôme d'état de docteur en médecine, aujourd'hui vous avez une qualification pour 44 spécialités, et puis vous avez 44 spécialités différentes qui sont reconnues. Et puis vous avez des droits au titre, notamment accordés par l'ordre des médecins et notamment en fonction de diplômes souvent interuniversitaires qui sont l'apanage des universités et qui relèvent de l'autonomie des universités. Et on va dire que à la fois historiquement, il y a une hétérogénéité extrêmement importante de ces diplômes interuniversitaires et une absence parfois, enfin un niveau extrêmement hétérogène et une crédibilité tout aussi hétérogène de ces diplômes interuniversitaires qui, malheureusement pour certains, bénéficient de cette onction universitaire. Et dans un certain nombre de ces DIU, donc quelques-uns donnent droit au titre, et ça c'est la responsabilité de l'Ordre des médecins de donner ce droit au titre. Et voilà, pour mémoire, l'homéopathie donnait droit au titre et bénéficiait d'un certain nombre de diplômes universitaires ou interuniversitaires, compte tenu de la polémique qu'il y a eu de l'homéopathie et on va dire la sur l'histoire du déremboursement de l'homéopathie, compte tenu de l'absence totale de données scientifiques on va dire du modèle un peu fantaisiste que constitue le fondement de l'homéopathie, ce droit au titre a été retiré depuis 2019, mais pour autant, vous avez toujours un certain nombre de diplômes interuniversitaires qui continuent à être donnés pour l'homéopathie en dépit des données de la science et, on va dire, de la crédibilité scientifique, ce qui est, à mon sens, extrêmement dommageable pour les universités concernées.
Oui, il y a des diplômes universitaires pour la sophrologie, l'hypnose ou l'homéopathie, donc. Bruno Falissa, hein, il y a une reconnaissance et un encadrement de quelques médecines alternatives. En France, quelles sont les médecines alternatives reconnues par l'Ordre des médecins ?
Alors, je suis pas sûr que ce soit des médecines, mais l'ostéopathie, par exemple, il y a une formation que le ministère a essayé d'homogénéiser. Les chiropraticiens, c'est pareil. Après, honnêtement, là, on parlait des DIU, au moins, c'est dans une faculté de médecine. Donc, au moins, il y a un minimum d'encadrement, même si, comme le disait Vincent Renard, c'est un peu aléatoire. Mais en fait, l'immense majorité des formations, c'est en dehors de toute structure universitaire. Et donc, il n'y a aucun regard, on ne sait pas les programmes. Et donc, demain, nous tous, autour de cette table, nous pouvons mettre une plaque d'hypnothérapeute, de sophrologue ou de naturopathe. Voilà, c'est juste la réalité.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme d'État hein, pour les médecines alternatives, sauf pour l'acupuncture.
Et même l'acupuncture, en principe, l'acupuncture est réservée aux médecins, aux docteurs en médecine. Or, l'immense majorité des acupuncteurs, acupunctrices, ne sont pas docteurs en médecine. Et voilà. Alors, est-ce que c'est bien ? Ben, je pense que ça manque de pragmatisme. Si tout le monde regarde la réalité et dit « Ah, c'est pas bien », mais que personne ne fait rien du tout, ben, on n'avance pas.
Vincent Renard ?
Oui, même pour l'acupuncture, ça repose aussi sur des diplômes universitaires pour les médecins. Mais là, je ne vais pas faire... Bruno Falissard connaît ce domaine mieux que personne. Et à partir du moment où vous avez une pratique où, on va dire, qui est très limité en termes de bénéfices, voire inexistants, puisque je rappelle que l'acupuncture fait mieux que si on fait rien, mais que l'acupuncture, on va dire traditionnelle, fait la même chose que l'acupuncture simulée, ça veut bien dire qu'il y a un problème sur le fond de l'efficacité propre et du modèle théorique sur lequel ça se fonde. Donc après, effectivement, pour le grand public qui serait, mais on peut prendre cet exemple-là parce qu'il est très connu, mais il y en a d'autres, il faudrait que pour le grand public, les choses soient plus claires. Moi, je ne suis pas forcément partisan que l'acupuncture soit réalisée que par des médecins, mais au moins, il faudrait que... comme pour l'homéopathie, comme pour la naturopathie, comme pour un certain nombre de pratiques de soins alternatives, le grand public sache faire la différence entre ce qui relève de la médecine et ce qui relève d'un soin alternatif. Pour le grand public, par exemple, c'est assez clair pour les huiles essentielles. Quand on veut des huiles essentielles et qu'on est persuadé de leur efficacité, eh ben on va au magasin de bien-être à côté, mais on ne pense pas forcément que c'est de la médecine. Eh bien, il faudrait que les choses soient plus claires pour l'ensemble de ces pratiques non conventionnelles.
Romy Sauvert, pour réagir à ce que vient de dire Vincent Renard.
Ce qui est intéressant, c'est en effet le terme employé. médecine douce, médecine alternative, médecine complémentaire. Dès lors qu'on utilise le mot médecine, on le colore déjà très positivement. On dit on va être soigné avec cette proposition, ce produit. Et je dirais que si déjà au niveau terminologique, on pouvait éviter d'utiliser le mot médecine pour tout ce qui n'a pas été démontré par la science et les études médicales menées en double aveugle, bien on gagnerait quelque chose. Ensuite, il y a chez les psychothérapeutes, par exemple, une tentative de clarifier un peu leurs approches avec une charte. Et c'est déjà un pas intéressant qui a été produit.
Alors, il y a des liens tout de même entre la médecine, disons, conventionnelle et d'un point de vue institutionnel. On a des diplômes universitaires. Et puis aussi, on voit des services de médecines alternatives dans les hôpitaux.
Oui, bien sûr. Mais de toute façon, vous parliez de l'hypnothérapie. Il y a eu des essais randomisés, c'est-à-dire on tire au sort les patients, comme avec les médicaments, pour évaluer son effet dans l'analgésie périopératoire. Et ces essais sont positifs. Et aujourd'hui, des anesthésistes se forment à l'hypnothérapie et ça rend service. Et d'ailleurs, on en avait discuté dans le laboratoire. Et le personnel dans la salle d'opération disait c'est fantastique parce que le patient va mieux, mais en fait tout le monde va mieux aussi et le chirurgien est beaucoup plus calme.
Alors on parle d'hypnose et comme on vient de dire, certains établissements de santé ouvrent leurs portes aux médecines alternatives en complément du parcours de soins de leurs patients. Bonjour Noémie Naguet de Saint-Vulfran.
Bonjour Natacha.
Vous êtes rendue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris pour le reportage du jour.
Oui, j'ai rencontré Marie-Charlotte Desmézières. Elle est justement médecin anesthésiste et elle s'est formée à la pratique de l'hypnose en interne. Donc beaucoup de patients viennent là parce que l'hypnose est pratiquée, aussi bien dans le service d'oncologie, de radiologie, rhumatologie, maternité ou même de chirurgie. Et au bloc opératoire, certains patients sont en demande car ils veulent éviter d'avoir une anesthésie générale, alors soit par peur, soit pour éviter au maximum de recevoir des drogues pharmacologiques. Et il y a aussi pour certains patients des contre-indications à l'anesthésie générale. Bref, l'hypnose s'est répandue dans tout l'hôpital et l'objectif principal est avant tout la satisfaction du patient.
Alors là, on va assister à une coloscopie, donc c'est un examen du côlon qu'on fait classiquement sous anesthésie générale, mais on développe de plus en plus les techniques comme l'hypnose pour éviter l'anesthésie générale et on se rend compte que ça marche très très bien.
Alors allons voir.
On va vous mettre un bain, monsieur est bien à jeun, préparation efficace, accompagnant OK. Comme on s'était dit, on est d'accord, donc vous avez choisi de partir plutôt à la plage à Tenerife. Si jamais il y a un petit inconfort, vous nous faites un petit signe, voilà. Vous levez un index ou une main, comme vous voulez. Si vous voulez, on va commencer par se concentrer sur la respiration.
Donc vous gardez les yeux ouverts ou fermés, comme vous voulez. Vous concentrez sur peut-être la fraîcheur de l'air qui rentre et qui descend dans tout le corps. Et lorsque vous expirez, vous pouvez peut-être vous rendre compte que l'air qui ressort est plus chaud. Et pendant que vous vous concentrez sur la respiration, vous pouvez aussi faire un point sur l'ici et maintenant avec les différents éléments qui vous entourent, la lumière de la salle, les différents sons qui vous entourent, plus ou moins proches, la soufflerie de nos machines, les bip-bip. Et vous respirez toujours à votre rythme, calmement. Maintenant qu'on a fait le point sur l'endroit où vous êtes en ce moment, je vous propose, toujours dans cet état de détente, de partir là où vous avez envie d'aller, dans un endroit que vous aimez, que vous appréciez, à Tenerife, là où sont vos amis, tout en continuant cette respiration à votre rythme qui vous détend. Vous pouvez tranquillement peut-être visualiser les contours de l'île que vous connaissez, laisser venir cette image, peut-être que vous pouvez même faire partie du décor complètement. Voilà, ce qui se passe plus loin ne vous concerne plus trop. Profitez du moment, de ce que vous voyez, et nous on fait ce qu'on a à faire.
Je ne sais pas si vous avez vu sur le scope, là, l'écran de contrôle, entre le début de l'intervention et le début de l'hypnose, la fréquence cardiaque a fortement chuté. C'est un des signes qui peut montrer que effectivement le patient commence à partir en état d'hypnose. Alors il y a des patients qui sont plus réfractaires, mais de façon générale, la population est réceptive à l'hypnose. Enfin, l'hypnose, c'est un état naturel qu'on a tous expérimenté dans notre vie. Par exemple, un enfant qui rêvasse, qui décroche à l'école, va même ne plus répondre à l'appel de son nom, c'est un état d'hypnose, le fait d'être perdu dans ses pensées. On est tous capables de faire de l'hypnose. Ce patient, par exemple, il est venu parce qu'il était motivé et qu'il était demandeur d'une hypnose. Donc déjà, de faire le pas de demander, il y a une motivation qui fait que c'est un facteur de réussite.
Comment on fait pour sortir un patient d'hypnose ?
Il y a toute une structure dans l'hypnose, hein, donc il y a une phase d'induction que vous avez enregistrée, puis ensuite le fait de partir à la plage, etc. Voilà, ça c'était son lieu de sécurité. Donc c'est la phase de travail hypnotique qui est d'une durée variable, qui s'adapte au geste. Et ensuite il y a la phase de retour d'hypnose, en fait, où on le fait reprendre petit à petit conscience de son corps dans la pièce, des sons qu'il peut entendre, voilà, le réimprégner de son environnement.
Et qu'est-ce qui se passe si, au cours d'une séance d'hypnose, la fréquence cardiaque remontait subitement, par exemple ?
C'est un moment qui est un peu plus douloureux. Le patient peut manifester sa douleur par une augmentation de la fréquence cardiaque. Mais le fait qu'il soit dissocié et qu'il soit en état d'hypnose va faire que peut-être qu'il ne ressentira pas cette douleur que son corps physiquement peut ressentir, mais lui-même ne sentira pas ça comme quelque chose de douloureux. Donc on ne va pas se baser sur la fréquence cardiaque pour injecter des produits d'anesthésie, par exemple, pour l'aider à supporter le geste, mais on va lui poser la question. C'est ce qu'on a fait au tout début de l'intervention, on a établi ce qu'on appelle un signaling. Donc le patient va lever un doigt de la main s'il y a un moment qui est désagréable pour lui, une douleur, une gêne. Et à ce moment-là, l'infirmière pourra injecter des drogues d'anesthésie pour l'aider à passer ce moment désagréable.
Mais d'un point de vue méthode scientifique, est-ce que vous avez pu comparer un groupe de patients témoins qui n'auraient pas reçu les séances d'hypnose versus un qui l'aurait reçu pour un certain type d'opération, pour pouvoir mesurer ensuite les bénéfices réels que peuvent avoir les séances d'hypnose ?
Alors ici, on n'a pas fait d'études scientifiques menées comme telles, mais il y a une constatation de la part de l'ensemble des soignants, déjà en salle de réveil, les patients qui ont pu avoir de l'hypnose pour une anesthésie générale, hein, donc en complément de l'anesthésie générale, avant de s'endormir, ce sont des patients qui vont se réveiller moins stressés, avec moins de douleurs. Et puis, voilà, la satisfaction de l'équipe est majeure également. Et ça, c'est aussi important dans une époque où l'hôpital va mal. Ça aide beaucoup les soignants à mieux vivre le quotidien, tout simplement. C'est une des thérapies alternatives qui est quand même de plus en plus développée et reconnue scientifiquement. Ça s'est fait assez naturellement, en fait, avec certains anesthésistes qui s'y sont formés il y a quelques années et qui ont voulu le développer au sein du bloc opératoire. Et puis, ça a fait aussi effet boule de neige dans tout l'hôpital. On a des sages-femmes qui sont formées, des infirmières de maternité qui sont formées, des obstétriciens également. Et donc, plus il y a de personnel formé, plus c'est simple de proposer ça en accompagnement aux femmes enceintes et à leur mari.
Dans quel but ?
Soit certaines femmes qui veulent accoucher sans péridurale, donc c'est une alternative. Et puis, il y a aussi les femmes qui sont stressées par la pose de péridurale elle-même. Donc, pouvoir faire un petit peu d'hypnose pour accompagner la péridurale, ça marche très très bien. Et puis également, certaines femmes qui ont accouché et qui ont besoin d'une révision utérine après l'accouchement, par exemple, ça peut être un geste désagréable. Et à ce moment-là, on peut proposer de l'hypnose en plus. Voilà, l'hypnose, c'est un outil dans la boîte à outils de l'anesthésiste. C'est un outil simple à mettre en place. Il faut se former, certes, mais ça ouvre un champ des possibles incroyable. Ça rend énormément de services aux patients. Ça rend aussi service à l'équipe et je suis convaincue que ça peut diminuer le nombre de burn-out à l'hôpital.
Merci Noémie Naguet de Saint-Vulfranc pour ce reportage. Romy Sauvert, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ?
Mais c'est très intéressant de voir que ce qui pourrait être perçu comme une croyance ou une pratique alternative, comme l'hypnose, peut apporter des bénéfices aux patients et on voit que finalement on a une pratique qui arrive vraiment en complément, en soutien de la médecine.
Bruno Falissard.
Oui, mais c'est l'exemple typique de ce qu'il faut faire. C'est étudié, c'est encadré. C'est réalisé par des professionnels qui sont formés, pas forcément des médecins, hein. C'est pas du tout corporatiste dans ce que je dis. Alors, je vais vous donner une anecdote qui va complètement dans la lignée de votre reportage. Nous discutions avec la directrice d'un institut de formation en hypnothérapie, institut privé. Et elle forme notamment des anesthésistes. Et elle commençait par leur dire, voilà, la première séance, vous savez, il faut regarder les gens dans les yeux quand on leur parle. Or, beaucoup de médecins aujourd'hui, ils regardent leur ordinateur parce qu'ils doivent remplir le dossier informatisé du patient. Et puis, c'est moins dur émotionnellement de regarder un écran d'ordinateur que de regarder un patient. Et à la seconde séance, elle interrogeait les étudiants, il y en a pas mal qui disaient « Mais vous savez, vous avez raison, quand on regarde les gens dans les yeux, en fait ça marche mieux. »
Et vous me regardez dans les yeux en disant ça.
Voilà, et donc vous voyez, c'est que on est 25€ la consultation, 12 minutes par patient, et un écran d'ordinateur, on oublie l'essentiel, la relation médecin-malade, et Vincent Renard disait tout à l'heure que c'est un élément indispensable de l'efficacité thérapeutique. Et ces soins complémentaires, pour certains, nous font redécouvrir certaines facettes de la relation médecin-malade dont nous n'avions pas l'habitude, sur lesquelles nous n'avons pas l'habitude de travailler.
Vincent Renard.
Oui, c'est vraiment très intéressant cette histoire-là. Alors Bruno, je te rappelle que la durée moyenne de consultation en médecine générale en France est entre 17 et 18 minutes et non pas 12 minutes. Justement, que c'est une des plus longues d'Europe et que en formation médicale initiale on plaide pour que ce soit encore plus long et pour regarder les patients dans les yeux sûrement. Alors c'est très intéressant et notamment à la fin du reportage il est bien fait mention et c'est pour ça que là je pense qu'il y a quand même une petite confusion que l'hypnose est un outil. Et comme disait Bruno Falissard, effectivement, c'est un excellent outil avec des preuves scientifiques et avec surtout, c'est là la différence entre un outil et une médecine alternative. Pour moi, l'hypnose, c'est pas du tout une médecine alternative. C'est un outil, une technique qui a des preuves scientifiques et qui s'intègre dans une prise en charge médicale au sens large. Mais ça ne prétend pas, comme technique, vouloir et ça, c'est le propre des médecines alternatives, de vouloir soigner l'ensemble des pathologies possibles, ou en tout cas, une grande majorité d'entre elles. C'est juste un outil avec des indications précises. Et donc, et par ailleurs, c'est un outil qui développe d'une certaine manière, en faisant appel à des ressources propres du patient, et qui relève de la relation entre le soignant et le soigné, dont j'ai dit tout à l'heure effectivement que cette relation, on a un certain nombre de preuves dans la littérature aussi, pour dire que cette relation a un impact direct sur l'efficacité du soin. Donc, je trouve que l'hypnose sort un peu du champ des soins alternatifs. C'est une fois de plus une technique. Alors une technique médicale, mais qui peut être employée par des non-médecins dans des indications précises avec des preuves d'efficacité tout à fait démontrées.
Vous évoquez des preuves scientifiques. Comment évalue-t-on les médecines alternatives ? On répond à cette question après cette chanson.
Trust in me.
16h39 sur France Culture. Vous avez peut-être connu la version de Aie confiance du livre de la jungle interprété par Suchela Raman, car nous parlons d'hypnose, d'acupuncture, d'homéopathie, nous parlons des médecines dites alternatives avec Bruno Falissard, professeur de santé publique à l'université Paris-Saclay, avec Romy Sauvert, sociologue des sciences et des croyances à l'université Clermont-Auvergne et au CNRS, et avec Vincent Renard, médecin généraliste, professeur de médecine générale et directeur du département de médecine générale de la faculté de Paris-Escréteil. Alors nous venons de parler dans un premier temps de l'encadrement des médecines alternatives en France. À présent, les médecines alternatives sont-elles efficaces? Vincent Renard, quels sont les éléments de réponse dont on dispose?
Ah, voilà.
Large question.
Le grand expert de cette réponse, c'est Bruno. Justement, enfin, c'est relativement hétérogène. Justement, l'unité INSERM de Bruno Falissard a mené un certain nombre d'expertises sur le sujet, concernant un certain nombre de techniques de soins ou de recours aux soins. Ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est que il faut, pour qu'on s'intéresse et qu'on évalue au plus près, pouvoir quand même s'inspirer d'un modèle qui puisse correspondre à quelque chose. Qu'il y ait un support scientifique à cette évaluation. On parlait tout à l'heure, en début de cette émission, du FATRA, de la médecine quantique. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'on consacre de l'argent public, voire de l'argent privé, qu'on investisse beaucoup de temps à se mettre à évaluer un peu n'importe quoi, parce que certains ont prétendu que ça pourrait soigner ou que ça pourrait avoir une efficacité, parce que je pense que justement la ressource financière, alors que la recherche ça coûte beaucoup d'argent, doit avoir une légitimité et doit s'appuyer sur quelque chose de plausible. Donc du coup, vous avez un certain nombre de techniques de soins dont moi je trouve que aujourd'hui, compte tenu des données déjà en notre possession, il est inutile de procéder à une évaluation supplémentaire. L'homéopathie est l'exemple type de ça. Alors après, il y a probablement un certain nombre de procédures sur lesquelles c'est intéressant d'avancer plus avant. On parlait de l'hypnose, où il y a un certain nombre de données scientifiques et qui, pour moi, ne fait pas partie des médecines complémentaires. Un sujet intéressant, par exemple, là-dessus, c'est l'acupuncture, avec tout ce qui relève de l'effet placebo dont on n'a pas encore parlé et qui est quand même un domaine de recherche extrêmement intéressant. Mais aujourd'hui, justement, si on parle des soins complémentaires, c'est justement parce que ces soins n'ont pas démontré au plan scientifique, avec les méthodes scientifiques aujourd'hui communément admises dans l'histoire des sciences, que ça n'a pas démontré d'efficacité par rapport au placebo. Mais là, c'est un vaste débat. Je pense que Bruno Falissard a beaucoup de choses à dire sur l'évaluation.
L'effet placebo, on y vient. Bruno Falissard, en effet, avec votre équipe INSERM, vous avez fait une évaluation très large. Vous avez évalué l'ostéopathie, la chiropractie, la mésothérapie à vis esthétique ou à vis antidouleur, le jeûne, la biologie totale, l'hypnose, l'acupuncture et l'auriculothérapie. Concrètement, comment on fait ce genre d'évaluation?
Bon, alors... En fait, votre question, elle est beaucoup plus compliquée que ce que vous imaginez. Nous ne sommes pas tous d'accord sur comment on doit évaluer une thérapeutique en général. Quand on regarde dans l'histoire de la médecine, en fait, on commence à être sérieux à partir du 19e siècle avec Claude Bernard. Et Claude Bernard, il dit, une maladie, c'est un organe qui dysfonctionne. Il faut que l'on trouve la cause du dysfonctionnement. J'agis sur la cause. Si je réussis à montrer que j'agis sur la cause, alors je soignerai le patient. Et ça a marché très bien avec les antibiotiques et les maladies bactériennes. Une maladie, je soigne, et puis ça marche. Le problème, c'est qu'à partir des années 50, eh ben, la cause du cancer du poumon, c'est le tabac. Ben, une fois que vous savez ça, vous ne savez pas soigner les gens pour autant. Et donc, il y a d'autres soignants qui ont dit, ben, on va tirer au sort. Alors, vous voyez, ça change complètement de façon de considérer l'efficacité. Avant, c'était une efficacité théorique, biologique.
Physiologique.
Voilà. Après, c'est une efficacité statistique, concrète, mais statistique. Eh bien, figurez-vous que aujourd'hui, ce clivage demeure et il n'y a pas un mois en France où un nouvel anticancéreux n'a pas une autorisation de mise sur le marché et un remboursement sans études randomisées et même sans bras contrôle. C'est rien que sur le mécanisme d'action que l'on accepte le remboursement, qui peut monter jusqu'à 500 000 euros l'injection. Alors, vous comprenez qu'après évaluer les soins complémentaires, alors comment on fait?
On peut faire une petite piqûre de rappel sur cette méthode que ce sont les essais randomisés en double aveugle. Et pourquoi justement ces essais, c'est compliqué de les appliquer avec les médecines alternatives?
Non, c'est pas compliqué. Non. Ça, c'est ce que tout le monde croit, mais c'est pas compliqué en fait, parce que l'essai randomisé, c'est extrêmement simple. Vous prenez 200 personnes, sans vous donner de l'acupuncture, sans vous donner ou rien, ou une fausse acupuncture, et puis vous comparez les pourcentages de gens qui ont guéri au bout de 3 mois, et vous voyez, c'est absolument transparent, ça marche tout le temps. Le seul problème, c'est de choisir l'indication, le critère d'efficacité et le traitement comparateur. Mais ça, c'est vrai en cancérologie, en cardiologie ou en hypnothérapie. C'est toujours la même question. Donc on peut le faire. Le seul problème, c'est l'argent. Un essai randomisé, ça peut coûter jusqu'à 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, un seul essai. Et donc vous imaginez bien que toutes les thérapies qui existent dans toutes les indications, on ne pourra jamais avoir assez d'argent pour tout évaluer. Et donc du coup, alors effectivement, où on choisit déjà celles pour lesquelles le mécanisme d'action semble un peu raisonnable. Mais alors là, alors prenons des exemples concrets, l'acupuncture. Alors je suis d'accord globalement avec ce que disait Vincent Renard, c'est-à-dire qu'il y a plein d'essais randomisés sur l'acupuncture, que l'on pique sur le méridien ou que l'on pique en faisant semblant de piquer ou à côté, le plus souvent, ça donne le même résultat. Donc en fait, les méridiens dans l'acupuncture, ils ne doivent pas exister vraiment. C'est très vraisemblable. Par contre, ils peuvent exister métaphoriquement. C'est-à-dire que dans le discours du soignant, il y a une construction mythologique sur une représentation de l'humain par rapport au cosmos, aux éléments, etc. Et là, les méridiens rentrent en jeu. Et peut-être que dans l'entretien que fait l'acupuncteur avec le patient, ces éléments mythologiques vont résonner positivement avec la plainte du patient, et quand on va piquer, alors ça va marcher parce que je pique au bon endroit. Mais c'est pas parce qu'il y a vraiment un méridien, c'est parce que le discours, voilà, le discours qui l'a accompagné a fait que ça marche. Donc vous voyez, la vraie question, c'est pas est-ce qu'il faut les évaluer ou pas, etc. C'est qu'est-ce qu'on évalue. Et là, du coup, on retrouve l'histoire du placebo qui, pour moi, est un faux ami. C'est que, oui, l'acupuncture, bien sûr, c'est un placebo, vraisemblablement comme l'homéopathie. Mais il ne faut pas dire ça parce que ça décrédibilise le soin quand on dit que c'est un placebo. Et je crois que ce n'est pas bien à outrance de décrédibiliser les soins tant qu'on ne les a pas vraiment compris.
Pourtant, l'effet placebo, il s'agit d'un phénomène encore bien mystérieux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'un effet bien réel produit par le cerveau avec des conséquences observables sur la physiologie.
Alors, je vais prendre l'exemple du piment. Le piment, vous en avez peut-être déjà pris, ça brûle vraiment. Eh bien, vous pouvez mettre le doigt dans votre bouche, la bouche, elle est toujours à 37 degrés. Le piment, c'est un hallucinogène. Ça vous fait croire au cerveau que vous vous brûlez. Mais en fait, rien ne change. Et pourtant, quand vous mangez du piment beaucoup, le cerveau peut déclencher tout un tas de réactions inflammatoires, et il y a même des enfants qui sont morts après avoir consommé trop de piment. Donc dire qu'en fait, un placebo, c'est juste quelque chose qui fait rien, et puis, ben voilà, ça donne l'impression que l'on guérit, etc. Non, c'est pas vrai. Les mots peuvent avoir un impact sur le cerveau. Les mots, des mots violents, peuvent modifier votre rythme cardiaque, le diamètre de votre pupille, la perméabilité cutanée et même votre système immunitaire parce que c'est un stress. Donc vous voyez, réduire l'importance de la relation médecin-malade et tout ce qu'elle contient à un mot qui est placebo, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement dommageable sur le cœur de la médecine.
Et Vincent Renard, l'effet placebo, en tout cas, c'est quelque chose qui est au cœur des débats concernant les médecines alternatives.
Ben oui, ben évidemment que c'est au cœur débat, puisque en fait, moi je suis pas du tout en désaccord avec tout ce qui vient d'être dit. Simplement, dans l'histoire de la méthode expérimentale, Bruno Falaiser faisait allusion à Claude Bernard, ça a constitué une avancée dans l'efficacité et dans l'histoire de la science qui est considérable. Et donc du coup, c'est le problème du comparateur. Et le comparateur, effectivement, c'est... donc, il y a une confusion un peu sur les mots, parce que le comparateur, on dit que c'est le placebo, on fait un essai randomisé d'une thérapeutique ou d'une technique contre placebo. Mais le placebo, c'est aussi un effet
qui est inhérent à toute procédure de soins. Et en ce sens, je suis complètement d'accord qu'il ne faut pas le dévaloriser. Alors après, les mots ont un sens et l'effet placebo, pour moi, ce n'est pas dévalorisant en soi. Toute relation soignant-soigné comporte un effet placebo. Tout médicament, fût-il le plus efficace pharmacologiquement, possède un effet placebo également. Donc, l'effet placebo est inhérent à la procédure et disons à toute utilisation non seulement d'outils, mais consubstantielle à la relation médecin-patient. Mais on pourrait aussi parler d'effets placebo en dehors de la médecine. Quand il y a des gens qui vont voir un voyant et qui ressortent de là en allant bien. Pourquoi ? Parce que la relation qu'ils ont eue, l'écoute qu'ils ont eue, leur a permis d'aller mieux. Pour autant, personne, enfin, jusqu'à nouvel ordre, à ma connaissance, pense que la voyance, c'est de la médecine. Et toute personne raisonnée sait que ça ne repose sur aucune donnée valide. Pour autant, ça peut faire du bien. Donc, du coup, l'enjeu, ce n'est pas de nier l'effet placebo ou de le déconsidérer, mais c'est de l'utiliser de la manière la plus éthique et la plus pertinente au service de méthodes qui, par ailleurs, ont démontré une efficacité. Parce que si on utilise aussi une des méthodes qui, soit n'ont jamais démontré leur efficacité et dont on postule donc de l'inefficacité, eh bien, il y a une sorte de tromperie et on ne gagne jamais, sur le fond, à induire dans la relation thérapeutique une tromperie, quelle qu'en soit sa nature.
On arrive à la fin de cette émission, mais Romy Sauvert, une réaction à ce que vient de dire votre camarade Vincent Renard.
Mais je vais tirer le trait plutôt en direction des mécanismes de l'adhésion, parce que finalement, quand on ressent, on a cet effet placebo, on a cette sensation que le médicament ou ce que la thérapie qu'on aura vécu est efficace. Et c'est ce sentiment subjectif qui peut amener de nombreuses personnes à considérer que la médecine alternative ou les propositions alternatives de soins peuvent être même meilleures que la médecine conventionnelle.
Eh bien, écoutez, merci à vous trois de nous avoir éclairés sur ce sujet. En tout cas, l'effet placebo démontre clairement que le rituel du traitement fait partie de l'acte thérapeutique, que la qualité de la relation médecin-malade, c'est essentiel pour l'obtention d'un résultat thérapeutique optimal. Merci encore. Il est temps de retrouver le pourquoi du comment, une chronique signée Étienne Klein.
Pourquoi les trous noirs ne sont sans doute pas noirs? Prenons un trou noir. Autour de lui, l'espace est si recourbé que les particules ne peuvent plus sortir du trou noir une fois qu'elles ont franchi le rayon dit de non-retour. Comment ce rayon se définit-il? D'une façon conforme à son appellation. Loin du trou noir, les particules peuvent se mouvoir dans toutes les directions. Plus près, aux abords de la sphère dont le rayon est ce rayon de non-retour, qu'on appelle aussi l'horizon, il y a davantage de trajectoires qui penchent vers le trou noir. À l'intérieur de cette sphère, toutes les trajectoires convergent vers le centre irrémédiablement, si bien que les particules qui les suivent demeureront emprisonnées au sein du trou noir. Précisons que cet horizon n'a aucune matérialité. On ne s'y cognerait pas en le traversant en provenance de l'extérieur. Il est simplement défini par le fait que nul retour en arrière n'est possible au-delà de lui. Compte tenu de ces règles, un trou noir ne devrait donc pas rayonner du tout. Pourtant, Stephen Hawking envisagea le contraire. Les trous noirs se comportent vraisemblablement comme des phares, au sens où ils rayonnent eux aussi de la lumière. L'histoire qui a mené à cette conclusion étonnante commence dans les années 1970, lorsqu'un jeune physicien, Jacob Bekenstein, remarqua que les lois d'évolution des trous noirs sont curieusement semblables à celles de la thermodynamique. Par exemple, la surface d'un trou noir ne diminue jamais. Elle s'accroît irréversiblement à mesure qu'il absorbe de la matière ou du rayonnement. En outre, la rencontre de deux trous noirs aboutit à la formation d'un nouveau trou noir, dont la surface est plus grande que la somme des surfaces des deux trous noirs présents au départ. Ces propriétés suggèrent une parenté entre la surface d'un trou noir et ce qu'on appelle l'entropie, cette grandeur thermodynamique dont on sait qu'elle ne peut qu'augmenter au fil du temps ou demeurer constante. Jacob Bekenstein, prenant au sérieux cette analogie, attribua à tout trou noir une véritable entropie. Une entropie, donc une température. Mais comment parler de température qui suppose une émission de chaleur alors que rien n'est censé pouvoir sortir d'un trou noir? Cette hypothèse semble contredire la nature même de tels objets. Cette difficulté conduisit Stephen Hawking à postuler que tout trou noir doit émettre de l'énergie, comme n'importe quel corps ayant une température non nulle. Mais par quel mécanisme? Stephen Hawking comprit que la physique quantique permet de rendre compte de ce phénomène. Le vide quantique est un espace empli de paires de particules et d'antiparticules virtuelles qui, sans cesse, se matérialisent et s'annihilent aussitôt. Mais au bord de la surface d'un trou noir, l'énergie du champ gravitationnel est si intense que les particules et les antiparticules virtuelles qui forment ces couples furtifs peuvent emprunter une part de cette énergie et se matérialiser pour de bon. D'un coup, elles qui n'étaient que des ombres fantomatiques surgissent dans le monde réel. Prenons l'exemple d'une paire constituée d'un électron et de son antiparticule, le positron. Plusieurs scénarios sont envisageables. L'un et l'autre peuvent d'abord tomber dans le trou noir et y disparaître corps et âme. Autre possibilité, l'électron s'échappe définitivement du trou noir tandis que le positron y retombe. La paire se trouve ainsi spatialement séparée et ses deux membres suivent des destins différents. Si l'électron rencontre ensuite un positron lui aussi échappé du trou noir, ils s'annihileront mutuellement, ce qui créera un flux de photons. Dernière possibilité, l'électron et le positron parviennent tous deux à s'échapper du trou noir, puis s'annihilent mutuellement en se transformant là encore en lumière. Contre toute attente, les dix trous noirs rayonnent ainsi de l'énergie lumineuse. Ils luisent et, ce faisant, perdent un peu de leur masse, d'autant plus rapidement qu'ils sont moins massifs. Bref, loin d'être absolument sombre, les trous noirs seraient plutôt gris sur les bords, pour parler comme Michel Cassé. Je vous laisse réfléchir là-dessus.
Merci Étienne Klein pour votre chronique et merci à toutes et à tous d'avoir choisi France Culture pour vous informer. L'équipe de la science CQFD, c'est Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Mariam Ibrahim, Garance Préma-Anelot et Natacha Demoule. À la réalisation, Daphné Leblon. À la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. Merci aux camarades de France Bleu Pays d'Auvergne, Benoît Allard. Vous pouvez nous écouter partout, en podcast et à toute heure sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France et nous suivre, pourquoi pas, sur Twitter, @sciencesCQFD. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour et souvenez-vous, rien n'est établi.